20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité, des moments qui ont tout changé. Ce soir, notre Georgie est le 9 septembre 2001. Le commandant Ahmad Shah Massoud, symbole de la résistance afghane contre les soviétiques et contre le régime taliban, est victime d'un attentat perpétré par des kamikazes d'Al-Qaïda. Ce jour-là, les Américains comprennent qu'ils seront la prochaine cible. Nous sommes le 9 septembre 2001 à Khwaja Bahuddin, dans la région de Tarar en Afghanistan. Le commandant Massoud, trop occupé, n'a de cesse de reporter une interview pour un documentaire pour un centre culturel islamique de Grande-Bretagne. Cela fait 10 jours que les journalistes belges sont arrivés à sa base et qu'ils l'attendent patiemment. Il trouvera, c'est sûr, le temps aujourd'hui. À 48 ans, Ahmad Shah Massoud, que l'on surnomme aussi le lion du Panchir, vallée au nord de Kaboul, bastion de la résistance contre le régime fondamentaliste taliban, est un héros à l'international. Depuis 1973, il se bat sans relâche. D'abord contre les soviétiques, dans les années 80, qui se casseront les dents à 9 reprises dans la vallée du Panchir face à son génie militaire. Puis, une décennie plus tard, contre les talibans, mouvement fondamentaliste islamiste obscur et fanatique. Ce 9 septembre 2001, le commandant Massoud trouve quelques instants à accorder à ses journalistes venus l'interviewer. Comme à l'accoutumée, il est coiffé de son célèbre pakol, un béret de laine traditionnel afghan. Il plante son regard perçant dans les yeux de ses interlocuteurs. L'interview peut commencer. Farim Dashti, un journaliste de l'entourage de Massoud, prépare sa caméra pour enregistrer l'entrevue. Oui, car le commandant aime à garder une trace de ses interventions. Massoud Khalili, son conseiller le plus proche, est quant à lui chargé de la traduction. On n'était pas à l'aise, indiquera-t-il plus tard. Le caméraman avait un sourire méchant, le soi-disant journaliste était lui très calme. Commandant, que ferez-vous d'Oussama Ben Laden lorsque vous aurez reconquis tout l'Afghanistan ? Demande le prétendu journaliste belge. Massoud tend l'oreille pour bien saisir la portée de la question, puis éclate de rire. La caméra explose. La déflagration est impressionnante. Massoud est projeté au sol, le visage criblé d'éclats. Son corps est démembré. Il succombe à ses blessures quelques heures plus tard. La 43e tentative d'assassinat contre lui était donc la bonne. L'heure est au drame. Il ne faut pas démotiver les combattants. Alors on tait le décès du lion du Panchir pendant plusieurs jours. Mais les talibans se délectent et se chargent de la macabre nouvelle. « Votre chef est mort et vous êtes défait », déclareront les meurtriers de Massoud à la radio. Aux obsèques du commandant Massoud, le 16 septembre 2001, l'ambiance est électrique. Des milliers de personnes hurlent, pleurent sa mort, tentent de toucher son cercueil qui sera finalement ouvert sous les cris de douleur. Dans la foule du cortège, son fils, âgé de 12 ans, habillé en blanc, est assis sur le char qui transporte sa dépouille. Derrière la mission suicide qui tuera le commandant Massoud, il y a Oussama Ben Laden. Pendant que l'opération terroriste qui allait causer sa mort se préparait, Massoud alertait les officiels sur la menace qu'Al-Qaïda faisait peser sur l'Occident. Si vous n'aidez pas le peuple afghan dans son objectif de paix, alors les Américains et le reste du monde devront faire face aux problèmes, prévenait-il George Bush, président des États-Unis, 5 mois plus tôt au Parlement européen. 2 jours plus tard, 2 avions de ligne se fracasseront sur les tours du World Trade Center, puis sur le Pentagone et feront près de 3000 victimes. À l'heure où l'Afghanistan agonise sous le fanatisme religieux, où un peuple fuit son pays jusqu'à s'accrocher aux ailes des derniers avions américains sur son sol, où des femmes héroïques revendiquent les droits fondamentaux dont elles sont privées sous le coup d'une violence inhumaine, portrait et vie ce soir d'un guerrier qui se battait sans relâche pour la paix. Dans un instant, le journaliste Olivier Weber sera à mes côtés. Nous reviendrons sur ce jour J et vous comprendrez tout sur ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui revient ce soir sur un événement tragique, annonciateur d'un cortège d'attentats meurtriers aux États-Unis. Nous sommes le 9 septembre 2001. Le commandant Massoud, visage de la résistance afghane contre l'obscurantisme taliban, est assassiné par des kamikazes d'Al-Qaïda qui ont piégé une caméra. Voici ce que l'on entendait le 10 septembre au matin sur l'antenne d'RTL.
Le commandant Massoud a échappé hier à un attentat suicide à la caméra piégée.
Bonsoir Olivier Weber.
Bonsoir Flavie Flamand.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, c'est voyageur, vous. Grand reporter. Vous avez couvert de nombreux conflits de l'Afghanistan à l'Irak et à la Syrie. Et vous êtes l'auteur d'un livre, Massoud, le rebelle assassiné, aux éditions de l'Aube. Comme on vient de l'entendre sur RTL, le 10 septembre 2001 à 7h30 du matin, Massoud est mort, mais personne ne le sait encore. Où est-ce que vous étiez-vous à ce moment-là? Vous n'étiez pas loin, hein?
Alors, j'étais pas loin, j'étais de l'autre côté de la frontière au Tadjikistan avec son bras droit, Abdullah Abdullah, qui va devenir d'ailleurs le vice-président d'Afghanistan quelques années plus tard. Et on ne le savait pas, je savais qu'il y a eu un attentat grâce à une amie chirurgienne afghane, Nilam Mobarez, contre Massoud, mais on ne savait pas qu'il est mort en fait en 20 minutes. Et Abdullah Abdullah l'a caché, je crois qu'il ne l'a pas su tout de suite non plus. Massoud était de l'autre côté de la frontière, donc pas loin, l'autre côté du fleuve Panj. Et en fait, j'ai vu dans les yeux non seulement d'Abdullah Abdullah, son bras droit, mais aussi de Shamsuddin, qui est son beau-frère et qui était le monsieur émeraude de la résistance, que Massoud était mort tout de suite.
Vous l'avez compris?
Oui.
À travers leur regard.
Oui, parce qu'il y a une sorte de désespoir. Et puis le soir même, le dimanche donc 9 juillet, les talibans ont lancé une attaque contre ce qu'on appelait l'Alliance du Nord, donc c'est une forteresse dans la montagne. Et pour que ça soit aussi coordonné en si peu de temps, oui, ça veut dire que c'était préparé et qu'Al-Qaïda et les talibans travaillaient main dans la main.
C'était la 43e tentative d'assassinat contre Massoud. Il avait baissé la garde ce jour-là?
Oui, en fait, c'était un concours de circonstances incroyables parce que Massoud changeait de lit 5 fois par semaine. Il se savait donc suivi par des tueurs. Il avait dit d'ailleurs, au moment de son anniversaire, quelques jours plus tôt, une semaine plus tôt, le 2 septembre, en nageant dans le Panchir, une rivière très très froide, la rivière de sa vallée, à sa femme, Sédika, je sais que je vais devenir bientôt shahid, c'est-à-dire martyr en persan. Il y avait une sorte de prémonition, mais en même temps, ses gardes de sécurité étaient là. Il y a eu des failles, ou plusieurs failles. Nous, quand on venait, les écrivains, les voyageurs, les humanitaires, les journalistes, voir Massoud, il fallait passer par Moscou, Douchanbé, prendre 2-3 avions, passer même une frontière à vélo, tenez-vous bien, parce que le Tadjikistan et l'Ouzbékistan n'étaient pas en odeur de sainteté, ne s'entendaient pas très très bien, mais eux, les tueurs qui étaient avec Al-Qaïda, donc les deux faux journalistes, venaient de Peshawar au Pakistan, puis de Kaboul. Et donc, il y a eu des failles, et la probabilité que Massoud rencontre ses tueurs ce jour-là est peut-être de 1 sur 100 000. Il en a eu assez. Il a dit, écoutez, ça fait 3 semaines que je les vois traîner. Ils sont venus en voiture, une semaine de voiture encore, pour venir dans ce village sur la frontière. Bon, faisons l'interview ce matin. Et c'est évidemment la décision fatidique.
Alors, le commandant Massoud, vous l'avez connu, vous l'avez rencontré. Quel souvenir est-ce que vous en gardez précisément?
Bien, j'en garde, moi j'ai beaucoup de distance par rapport à certaines idoles et je n'aime pas l'idolâtrie, je n'aime pas la géographie, mais Massoud, c'était quelqu'un qui avait du charisme. Il y a un charisme fait de simplicité. Il aimait ses hommes, il aimait jouer au football avec eux, il aimait jouer aux échecs, il aimait même nous réciter à nous, les voyageurs, les écrivains, les humanitaires, les journalistes, des poèmes en persan.
C'était quelqu'un de très cultivé. Hein.
Très cultivé absolument, et qui aimait aussi la littérature française. Il parlait un peu français, parce qu'il avait été étudiant jeune, donc au lycée Istiklal, qui est le lycée francophone de Kaboul. Et c'était quelqu'un qui était remarquablement intelligent et qui avait une vision à la fois stratégique en tant que guérilleros, que maquisard en quelque sorte, qui avait lu en plus des classiques de l'art de la guérilla, mais aussi qui avait une vision politique de sa vallée, qui en faisait une sorte de laboratoire. On a pu décrier Massoud en disant « mais c'était pas parfait ». Bien sûr que c'est pas parfait, c'est un pays en guerre depuis 40 ans. N'empêche qu'il avait des idées et qu'il avait promu quand même les droits des femmes et les droits des hommes.
Il est né dans un milieu déjà militaire et assez aisé.
Oui, assez aisé parce qu'il est né en 1952 dans la famille donc d'un colonel de l'armée royale. À l'époque, c'était le fameux roi Zahir Shah, qui a fait ses études pas très très loin d'ailleurs de vos studios de RTL, à Janson de Sailly, et qui a 19 ans,
dans le 16e arrondissement, Zahir Shah, de Paris.
16e arrondissement, a été rappelé donc par la cour, parce que le roi précédent avait été tué. Donc à 19 ans, il monte sur le trône. Et donc le père de Massoud était colonel, et Massoud devient étudiant à l'école polytechnique, et très vite il rejoint les maquis pour lutter en fait contre, enfin lutter, c'était à l'époque le début de l'irrédentisme des tribus, et à la fois de cette collusion entre les maoïstes d'extrême gauche et les musulmans, les frères musulmans.
Et oui, parce que Massoud, en fait, si aujourd'hui il est considéré comme un visage de la paix, il a pourtant versé dans des mouvements radicaux, hein,
absolument,
au début.
Absolument, c'était un frère musulman à 20 ans et quelques, certains de mes amis plus âgés que moi donc, ont été étudiants avec lui à Polytechnique, et c'est ça qui me le rend intéressant. Pourquoi ? Parce que avec sa vision que j'appelle de l'islam des Lumières, un islam tolérant, oui, un islam d'ouverture, un islam démocrate et modéré, eh bien Massoud l'a compris en venant justement des frères musulmans. Donc il y a une sorte de sortie du fondamentalisme. Il y a une sorte de, entre guillemets, de résilience, je n'irai pas jusqu'à dire de rédemption, mais en tout cas, il savait ce que c'était que le fanatisme islamique. Et de là, il en fait un islam de tolérance, donc chapeau, quelque part, il y a quand même un homme à écouter.
Voilà, le parcours de cet homme, ce sera ce soir dans Jour J avec vous jusqu'à 21h. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va se retrouver dans un instant, on va parler de Massoud, le combattant, parce qu'on parlait d'un militaire hors pair. Ce sera dans un instant dans Jour J. A tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, Jour J qui vous emmène dans la vallée du Panjshir. Nous sommes au nord de l'Afghanistan, auprès de l'irréductible commandant Massoud, visage de la résistance contre les talibans, assassiné le 9 septembre 2001. Olivier Weber, vous êtes notre invité. Merci à vous. On parle d'un combattant qui ne lâchait rien, d'un génie militaire qui connaissait parfaitement le terrain. On l'écoute tout de suite. Nous sommes en 1982 devant les caméras de France 2.
Troisième chose, ça c'est l'extructure de la vallée. C'est les montagnes et les rivières. Pour nous, c'est très bien. Et pour l'ennemi, c'est très mauvais. L'ennemi ne connaît pas bien les montagnes et d'autres choses.
C'était ça, la force du commandant Massoud, c'était de connaître parfaitement son terrain, son pays,
bien
sa
sûr,
vallée.
Il la connaissait parfaitement. Et puis cette vallée, évidemment, c'était un paradis pour les maquisards, comme ouais, ça a été dit par Massoud. Évidemment, plein de petits vallons, des caches, des abris, presque des caves, des grottes, etc. Et pendant la guerre contre les Soviétiques, c'est 10 ans, 79-1989, les Soviétiques lancent 9 offensives violentes avec des spetsnaz, des parachutistes qui viennent du col d'Anjoman, 4200 mètres. C'est la politique de la terre brûlée. Tous les villages sont détruits, les récoltes aussi, etc. Et Massoud a eu vent de l'une de ces offensives en 1984 et arrive, grâce à un espion, très vite à réagir, à faire évacuer 100 000 personnes. Vous vous rendez compte, des paysans, des paysannes, leurs enfants dans des vallons en montagne. Et ensuite, il attaque. Il attaque par l'embuscade, par l'escarmouche, à revers les Soviétiques, qui ont eu, évidemment, qui ont pris une pâtée, comme on dit. Et là, la légende de Massoud est née. Elle était déjà quand même bien bâtie auparavant, mais en 84, Massoud devient un héros presque national. C'est l'homme qui arrive à s'ériger contre les Soviétiques et à commencer à les vaincre.
Racontez-nous le contexte, justement, de l'époque. Comment s'est-il retrouvé à combattre les Soviétiques ?
Alors d'abord, il faisait partie de ces rebelles qui étaient contre la monarchie, et puis après contre le régime communiste, et puis brutalement, les Soviétiques envahissent, entre Noël et Nouvel An de 1979, ce pays vassalisé qu'est l'Afghanistan, tue le président communiste afghan, donc, et occupe pendant 10 ans le pays. C'était sanglant, ça fait, on pense, jusqu'à 1 million de morts sur une population de 17 millions d'habitants. Et très vite, donc, la résistance s'organise. Il y avait 7 partis. Massoud faisait partie de l'une de ses branches. Et donc, Massoud arrive à fédérer autour de lui des paysans, des jeunes, des moins jeunes, etc., par son, d'abord son charisme, et deuxièmement, par son génie de la stratégie. Puis, troisièmement, je dirais aussi, avec une vision du pays. Lui voulait non pas un pays divisé en mosaïque ethnique, comme c'est le cas depuis longtemps, il voulait un pays uni et fédéré.
Cette vallée du Panjshir, c'est la vallée de sa naissance aussi. C'est ce qui explique en fait qu'il connaissait si bien le terrain. D'où lui vient ce génie militaire dont vous nous parlez ?
Alors, ce sont ses lectures. D'abord, c'est un architecte, c'est un ingénieur, parce que tous les élèves issus de cette polytechnique étaient qualifiés d'ingénieurs. Il avait quand même une vision assez rationnelle, on va dire, et tangible d'une situation politique. Et puis, ce sont ses lectures. Je crois que c'est quelqu'un qui était doué, qui avait une grande ouverture d'esprit. Et peut-être parce qu'il venait justement du radicalisme et qu'il en était sorti. Et il aimait la France, il aimait d'autres pays, etc. Puis je crois quand même ajouter, on va fêter bientôt dans quelques mois les 100 ans de l'amitié entre la France et l'Afghanistan, les 100 ans de l'établissement des relations diplomatiques à la demande du roi Amanullah Khan. C'est pas rien quand même. Et dans cette amitié, il y a eu le romantisme de quoi des Médecins sans frontières, c'est-à-dire des French Doctors. C'est un journaliste texan qui les avait appelés comme ça. Ils n'étaient pas que français d'ailleurs. Et Massoud les a accueillis d'ailleurs. Les premiers envoyés spéciaux étaient des envoyés spéciaux. C'était des femmes, pas du tout journalistes, c'était des médecins, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est un de mes amis qui avait 18 ans à l'époque, Mehrabouddine, qui les a accueillis. Et je pense que Massoud a été formé, on va dire, entre guillemets, politiquement ou dans l'ouverture d'esprit, par ses médecins également, qui lui racontaient pourquoi il venait. Et les médecins de la médecine humanitaire d'urgence dénoncer plus, ou rapporter plus, témoigner plus qu'il ne soignait, si je puis dire. La dénonciation était aussi importante que le soin et l'accès aux médicaments.
Les talibans, qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque ?
Alors, il n'y avait pas encore de talibans. Les talibans sont arrivés brusquement. Ont surgi les madrasas, les écoles coraniques, dont certaines que je connais du Pakistan, donc, et d'Inde aussi d'ailleurs, en 1994. Et ils ont pris le pouvoir en 2 ans. Et on oublie de le dire, ça a été fait avec l'appui de certaines institutions pakistanaises, surtout l'armée, et surtout l'armée dans l'armée qui s'appelle l'ISI, Inter-Services Intelligence, c'est-à-dire les services secrets. Et ce sont eux qui ont mis en avant, qui ont formé, qui ont cadré les talibans. Et encore aujourd'hui...
Qui étaient des jeunes étudiants. Hein.
Des jeunes étudiants. Taleb, ça veut dire en ourdou, ça veut dire étudiant, en arabe aussi. Et s'ils ont pris aussi rapidement le pouvoir à Kaboul le 15 août dernier, à leur grande surprise eux-mêmes d'ailleurs, c'est parce que les Pakistanais les avaient conseillés et armés.
On reviendra d'ailleurs et sur la suite, et notamment le fils du commandant Massoud qui est actuellement sur place.
Hein, tout à fait.
On l'imagine. On va se retrouver dans un instant, parce que si je vous parle des talibans, c'est qu'effectivement, c'est là que Massoud a compris qu'il était condamné à mort officiellement par Al-Qaïda. On est en 1996. Il va se retirer dans la vallée du Panjshir. Vous allez nous raconter ce moment assez historique. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
À travers notre jour J de ce soir, le 9 septembre 2001, date de l'assassinat du commandant Massoud, c'est sur l'histoire et la situation de l'Afghanistan que nous faisons lumière grâce à notre invité Olivier Weber. Olivier Weber, vous nous l'avez expliqué il y a un instant, les talibans arrivent au pouvoir en 1996, le commandant Massoud est déjà le commandant Massoud, mais il est à Kaboul à ce moment-là.
Il est à Kaboul, c'est le ministre de la Défense, en fait, c'est l'homme fort, moi je l'ai revu aussi à ce moment-là, donc c'est l'homme qui défend Kaboul, Kaboul est assiégé, il devient un seigneur de guerre, alors pour moi, évidemment, nul n'est parfait, c'est aussi un apôtre de la paix quelque part, et il faisait la guerre malgré lui, en quelque sorte.
Mais vous le dites, hein, il était fatigué par ça.
Il était fatigué par la guerre, absolument, même physiquement, il était bourré de tics, etc., quand il est venu à Paris, il a failli être hospitalisé au Val-de-Grâce, en fait, c'était non pas mal de dos, mais un labago aigu, mais un surmenage. Et en fait, il a lâché pied, il est parti de Kaboul. Massoud s'est dit, si je reste, ça va être un bain de sang. Il y avait déjà eu un bain de sang, parce qu'il y a des factions qui s'entretuaient. J'étais là, on se battait, enfin moi j'étais là pour un livre, de maison en maison. C'était des maisons en pisé, donc ça résistait même pas à un tir de bazooka, tout juste de Kalachnikov. On était à 30 mètres les uns des autres. Et Massoud décide de partir. Et quand il part, évidemment, il laisse Kaboul ville ouverte, les talibans arrivent, et lui dynamite l'entrée, la passe du bas de la vallée du Panjshir, qui est une très belle vallée qu'on appelle très souvent la Suisse d'Afghanistan, parce que vous avez des amandiers, des cerisiers, des abricotiers, c'est très vert, etc. C'est une vallée merveilleuse qui donne beaucoup d'ailleurs de récoltes et de fruits. Et Massoud fait dynamiter la falaise tout en bas, parce que la passe d'ouverture, elle fait 30 mètres de large, pas plus. D'un côté, vous avez le fleuve, le torrent, on va dire, qui est glacial. De l'autre côté, vous avez la piste et puis la falaise. Il fait dynamiter par ses hommes la falaise, les blocs de rochers tombe en fait dans l'eau sur la piste, et donc les talibans ne peuvent pas monter. Et c'est devenu donc un nid d'aigle, ça a toujours été un nid d'aigle d'ailleurs, ça n'a jamais été pris, sauf derrière moi, par les talibans. Mais Massoud, justement, pouvait à l'époque compter sur une base arrière qui était le Tadjikistan, et puis surtout sur une population qui était acquise à sa cause.
Quand Massoud décide de quitter Kaboul, c'est donc, vous l'avez précisé, dans un souci d'éviter un bain de sang. Néanmoins, est-ce que la population le comprend à ce moment-là ?
Oui, la population était déjà lasse de la guerre. La population en avait assez d'être raquettée par le checkpoint. Moi, je me rappelle, je suis monté un jour de Peshawar déguisé en afghan, enfin dans une voiture, et habillé en charwal kameez. J'ai eu 11 postes de contrôle. Il fallait payer quelquefois, pas moi, mais les gens qui m'accompagnaient. Et donc voilà, donc c'était compliqué. Les gens en avaient assez. De toute façon, les Afghans n'aspirent qu'à la paix. Et là, effectivement, les talibans étaient accueillis à bras ouverts. Aujourd'hui, c'est différent.
Mais
parce que les Afghans et les Afghanes savent ce que c'est un pays de 38 millions d'habitants, c'est pas rien, la moitié a moins de 25 ans. Et parmi eux, j'allais dire parmi elles, ce sont des femmes, des jeunes qui ont connu la liberté, qui ont été à l'école, qui ont été à la fac, qui ont commencé à travailler. Et là, on sait ce que c'est que la chape de plomb de ce qu'on appelle l'IRSHA, la guidance islamique, et la milice, vous savez de quoi ? Du vice et de la vertu. Moi, je l'ai vu à Kandahar, je l'ai vu quand j'ai vécu avec les talibans pour un livre et pour un film. Je les ai vus frapper des hommes qui n'avaient pas la barbe assez longue. Je les ai vus frapper des femmes qui n'étaient pas assez bien accompagnées, pas par le mal qu'il fallait, qui n'étaient pas le conjoint ou le père ou l'oncle, mais un petit ami, etc. Je les ai vus à l'œuvre, des jeunes totalement déculturés qui ne savaient même pas ce que c'était le Coran, j'en savais plus qu'eux au niveau des sourates du Coran. Et ce sont les mêmes miliciens qui sont à l'œuvre aujourd'hui, les mêmes miliciens et les mêmes ministres talibans qui empêchent, qui vont empêcher les enfants d'aller à l'école, filles, les enfants filles, et désormais les femmes d'aller travailler. Et donc c'est ça qui a changé, ce besoin de liberté de la part des Afghanes et des Afghans.
Cette population afghane qui aujourd'hui, donc, vous le dites très bien, hein, est complètement écrasée par le retour des talibans en 96. On ne savait pas véritablement, je dirais, à quoi s'attendre. Vous parlez, puisque vous les avez rencontrés aussi, d'une certaine hypocrisie du côté des talibans. C'est-à-dire, vous parlez d'un vrai manque de culture, mais aussi d'une hypocrisie. C'est bourré de paradoxes, en fait.
Bourré de paradoxes, parce que ce qui m'a surpris quand j'ai vécu avec eux, surtout avec Mollah Hassan, qui était le numéro 2, du mouvement taliban à Kandahar, il habitait à 300 mètres de chez Ben Laden, et je disais, mais expliquez-moi, vous, donc l'émir, vous, Mollah Hassan, vous les ministres, qu'est-ce que vous recherchez? Ce qui revenait au bout des semaines de discussion, c'était un concept, c'est tout, la pureté. On veut être l'émirat le plus pur au monde. Alors je leur disais, mais attendez, quid du tariq? Tariq, c'est un mot qui veut dire opiacé, mais c'est un euphémisme pour pas dire héroïne, c'est de l'héros, c'est de la poudre blanche. 92% de l'héroïne du monde entier vient de l'Afghanistan. Donc, transformé dans d'autres pays, mais ça vient du pavot afghan. Il me disait, non, mais c'est pas inscrit le mot héroïne dans le Coran. Mais évidemment, la pilule ecstasy non plus. Et donc, il y a eu une grande hypocrisie. Il y a eu ensuite une fatwa de Mollah Omar. Mais c'est ça, les talibans, ils sont capables d'extorquer des fonds à tout commerçant. Ils sont capables de frapper des femmes. Ils sont dans le Coran, j'ai lu deux fois le Coran. Il faut qu'on me cite un jour une sourate qui interdise aux jeunes filles de 10 ans ou de 12 ans, pubères ou prépubères, d'aller à l'école. Il n'y en a aucune. Et ils disent, oui, mais vous comprenez, ça détourne la femme de la prière, tu parles. Enfin, voilà. Il y a une grande hypocrisie.
Les talibans qui condamnent aussi, en 2021, l'homosexualité punie par la lapidation.
La lapidation, absolument. Et c'est la même lapidation que celle appliquée il y a quelques années par les mêmes talibans, et même par ce fameux ministre de la promotion de la vertu, de la répression du vice, tenez-vous bien, c'était ça le nom du ministère, et cette ministre réapparaît, et bien ce ministre, je lui demandais, mais pourquoi vous lapidez les homosexuels et les femmes adultères? Il était un peu gêné, etc., il était entouré d'ailleurs de jeunes éphèbes, et racontait qu'en fait c'était des camions bourrés de pierres, vous vous rendez compte, des camions bennes qui déversaient donc plusieurs tonnes de pierres sur l'homosexuel ou la femme adultère. Évidemment, s'il en sortait ou si elle en sortait vivant ou vivante, il était innocent. On n'en sortait jamais totalement sain et sauf, on était vraiment amoché. Et puis un jour, j'étais dans un stade de football pour un match entre l'équipe de Kandahar et de Kaboul. Et là, donc, brutalement, le match est annulé. En fait, les talibans, devant 5000 spectateurs, disent qu'il y a un autre spectacle. Il y a eu donc amputation. Je me rappelle, c'était un jeune garçon boucher de 20 ans qui était assez costaud, qu'on a amputé de la main parce qu'il avait volé un tapis en se faisant passer en plus pour un taliban. Et après, une exécution, d'ailleurs, dans la cage de but. Une exécution donc demandée par une famille. L'homme était meurtrier, donc une balle de Kalachnikov dans la tête. C'est ça, la justice des talibans. C'est une justice expéditive, c'est une justice tribale, c'est une justice clanique. Alors on dit que c'est mieux que le code de l'honneur des Pashtuns, le Pashtun Wali, c'est faux, c'est une justice barbare. Vraiment, c'est une justice peut-être rapide qui rend service à quelques-uns, mais en tout cas, c'est ça qui nous attend en Afghanistan aujourd'hui.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous jusqu'à 21h. Lorsque le commandant Massoud est assassiné le 9 septembre 2001, le gouvernement américain comprend qu'une attaque terroriste est imminente. Deux jours plus tard, deux avions étaient projetés sur les tours du World Trade Center à New York. Olivier Weber, vous êtes avec nous jusqu'à 21h. Le commandant Massoud était le chef militaire du seul gouvernement afghan reconnu auprès de la communauté internationale. Est-ce qu'elle était sensible, cette communauté internationale, à la cause de Massoud? Sensible à ce qui se passait, je dirais, en Afghanistan, est-ce qu'elle était à ses côtés?
Elle était sensible, je dirais, par un soutien politique, diplomatique, voire humanitaire, mais pas du tout par un soutien militaire. Or, c'est ce que demandait Massoud. On l'avait fait venir à Paris, donc en avril 2001. C'est juste un mois, rappelez-vous, avant la destruction. Moi, j'appelle ça l'assassinat de deux tours. C'est pas celle de New York, c'est bien avant. C'est les deux tours de Bamiyan, les deux bouddhas de Bamiyan. Moi, j'appelle ça un assassinat. Les talibans m'avaient dit, les walis talibans, les gouverneurs, on ne touchera pas. Ça fait partie du patrimoine. Si les bouddhas tombent, c'est l'œuvre d'Al-Qaïda. Et c'est vrai, en quelque sorte, ça a monté la montée en puissance d'Al-Qaïda, des terroristes et des djihadistes internationaux. Et Massoud vient à Paris, il plaide la cause, non seulement de sa vallée, de son pays, mais du monde entier, en disant, mais vous voyez pas ce qui va arriver là, les talibans et surtout Al-Qaïda.
On est le 4 avril 2001, au Quai d'Orsay à Paris. Il en appelle donc au gouvernement français.
La fin de la guerre en Afghanistan est dans les mains de la communauté internationale qui doit exercer de fortes pressions sur le Pakistan. Je veux que la France use de son influence pour rétablir la paix en Afghanistan.
Donc là, on est 5 mois avant son assassinat. Il est reçu au Quai d'Orsay. On a appelé au gouvernement français auprès d'Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères à l'époque. Qu'est-ce qu'il va en suivre ?
Pas grand-chose, parce qu'il n'est reçu que par le ministre des Affaires étrangères, ce qui est déjà pas mal, et par le Parlement européen, mais lui demandait des armes, en fait. Il demandait un soutien franc et massif, comme on dit en diplomatie. En fait, il n'a rien eu. Et il disait, en rentrant donc dépité dans son panchir, ils ne savent pas là-bas ce qui arrive. La déferlante islamiste nationaliste des talibans, mais aussi internationaliste d'Al-Qaïda et consorts. C'était évidemment avant Daesh, mais ça fait partie des mêmes nébuleuses. Et oui, il était un peu attristé par cet aveuglement, parce que Massoud se battait pour une bonne partie de ce qu'on appelle l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants musulmans, c'est-à-dire 1,5 milliard d'habitants. Et lui, il se battait depuis des années, et voilà, il s'est battu contre deux totalitarismes. D'abord, le totalitarisme soviétique, deuxièmement, celui des talibans. Et celui des talibans ne demandait qu'à prendre de l'ampleur. Hein. Cette séquence, elle était écrite, c'est-à-dire, grosso modo, la destruction des Bouddhas de Bamiyan, qui marquait la montée en puissance des djihadistes internationalistes, hein, des combattants étrangers. Moi, je les voyais, il y avait des Algériens, il y avait des Saoudiens, il y avait des Turcs, très souvent d'ailleurs issus des bourgeoisies locales. Et puis après, bien sûr, celle des talibans. Et voilà, le côté visionnaire de Massoud n'a pas été écouté. Et c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais s'il était resté en vie pour cette 41e, 42e, 43e tentative d'assassinat le 9 septembre, il aurait été protégé. Pourquoi ? Parce que 2 jours après, donc, il y avait les attentats de New York, et j'ai vu débarquer dans le Panjshir donc, les hélicoptères, dans ce monde CNN, mais aussi de la CIA, avec des hommes en armes, en civil, puis après des militaires. Et je pense que la région, non seulement l'Afghanistan, mais toute la région n'aurait pas été la même, et il y aurait sûrement une coalition anti-taliban qui aurait été monté par Massoud.
Et forcément, l'histoire aurait été différente.
Elle aurait été différente, absolument.
Parce que c'est une bascule mondiale, on est bien
d'accord. C'est un bascule mondial. Et il y a eu un état de grâce en 2001, et je pense que cette guerre de 2001 était nécessaire, pas celle de 2003 en Irak, qui était un désastre. La CIA avait dit à Bush, monsieur le président, n'intervenez pas. On va faire imploser ce pays qu'est l'Irak et surtout favoriser l'Iran et déstabiliser le Moyen-Orient. C'est exactement ce qui s'est passé. Pendant cet état de grâce de 2 ou 3 ans, Massoud vivant aurait dit, attention, voilà ce qu'il faut faire. Toute armée étrangère plongée dans le corps afghan plus de X mois devient une armée d'occupation. Ne restez pas trop longtemps, mais aidez-nous et on va se débarrasser des islamistes.
Il prévenait donc aussi à l'époque des dangers de laisser Al-Qaïda prospérer. Tendez l'oreille car le son n'est vraiment pas terrible, mais il s'agit là d'une des dernières interviews de Massoud à des journalistes français.
اگر گیج اسامه اگر مصروف نباشه شما میبینید که اعمال تروریستی چقدر واسه خاطر
سی اسامه بن لادن نیپا اوکوپی اون افغانستان je pense que leur réseau il prend beaucoup ses dégâts à l'extérieur.
En fait, ce qu'il explique là, c'est s'il n'est pas Oussama Ben Laden occupé en Afghanistan.
Tout à fait.
C'est-à-dire, venez nous aider, détournons-le finalement, Oussama Ben Laden, de son dessein final qui est de s'en prendre au monde entier, notamment aux États-Unis.
Tout à fait, absolument, avec ces métastases qui sont des cellules dormantes, qui sont en fait des implantations dans différents pays européens et ailleurs. On l'a vu aussi aux États-Unis, même en France, avec tous les attentats terroristes, il ne suffit pas de beaucoup de combattants. On sait que les 2/3 des exécutants des attentats terroristes depuis 10 ans en Europe sont des psychotiques. Donc on a besoin de supplétifs qu'on trouve facilement dans la rue ou ailleurs. Et Massoud avait senti ça, cette parenthèse, cette alliance obligée entre les talibans et donc Al-Qaïda. Et c'est la même aujourd'hui, c'est la même. Parce qu'en Afghanistan, vous avez 3 nébuleuses. Il y a les talibans au pouvoir, c'est une nébuleuse, hein, c'est pas du tout pyramidal, hiérarchique, c'est des combats, des luttes de temps, etc. Celle d'Al-Qaïda et celle de Daesh, donc l'État islamique en Afghanistan. Et ça, c'est très dangereux, parce que même au Sahel aujourd'hui, on se dit, ah bon, ils ont pris le pouvoir, ben nous, Boko Haram, nous, l'État islamique dans le Grand Sahara, on peut faire pareil. Donc il y a une sorte d'espace romantique, et c'est dommage que la communauté internationale n'ait pas réagi plus vivement sur ces 20 ans d'intervention en Afghanistan.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, vous l'avez compris, qui revisite ce soir la vie de lutte du commandant Massoud contre les talibans qui ont repris totalement le pouvoir en Afghanistan après le départ du président Ashraf Ghani, c'était le 15 août dernier. Le fils du commandant Massoud, que l'on avait vu à ses obsèques le 16 septembre 2001, il était vêtu de blanc sur le char qui transportait le cercueil de son père. Ahmad Massoud donc a aujourd'hui 32 ans. Il a fait ses études à Londres avant de revenir dans son pays, de reprendre le flambeau de Massoud en 2016. On écoute tout de suite Ahmad Massoud, le fils donc qui s'appelle comme son père. C'était en mars dernier sur France 24. Il remet en cause le mode opératoire des États-Unis, à savoir qu'ils ont reconnu implicitement les talibans sous le gouvernement Trump.
Absolument. Il ne revenait pas aux Américains de signer un accord avec les talibans. C'était aux Afghans de trouver un accord avec eux. En signant un accord précoce avec les talibans, les Américains ont totalement détruit l'équilibre dans les négociations, l'équilibre des forces en Afghanistan. C'est pourquoi la conférence de Doha a été un échec. C'est pourquoi il y a la conférence d'Istanbul en Turquie.
Olivier Weber, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Américains négocient directement avec les talibans ?
Il y a eu un mauvais enclenchement de cette négociation sous l'administration de Trump. Trump voulait que les boys rentrent rapidement aux États-Unis. Est-ce que c'est un désastre de voir rentrer...
Ce que vous appelez les boys, ce sont les troupes
les
américaines.
Les boys, c'est les troupes américaines. Il y a eu 2500 morts. Et le Pentagone, l'armée américaine, dit que ce n'est pas énorme par rapport à 20 ans de présence. Mais c'est insupportable pour un élu et un président américain de voir les plastic bags, donc les corps rentrer dans des sacs en plastique aux États-Unis. Donc il fallait arrêter la guerre. Sauf que là, on s'y est mal pris. On a négocié directement avec les talibans d'une part, donc on les a reconnus, sans le gouvernement afghan effectivement. Et puis deuxièmement, on a négocié pas du tout un accord de paix, c'est un accord de retrait. À partir du moment où vous nous laissez partir, vous les talibans, nous les américains, eh bien on ferme les yeux sur le reste. Donc ça a été une sorte de blanc-seing. On les a reconnus, on les a remis.
Pardon de le dire comme ça, mais c'est dingo.
C'est incroyable, absolument, parce qu'on a remis les clés, tout à fait. Tout ça pour ça. Quel gâchis, 20 ans de présence, des dizaines de milliers de morts parmi les civils. On donne les clés d'une capitale aux talibans, dont on sait très bien de quoi ils sont capables.
Alors, on vient de parler de Trump, on peut parler d'Obama aussi, qui a libéré, en fait, 5
des
futurs ministres aujourd'hui du régime taliban. C'est-à-dire que sur les 6 les personnes les plus influentes, en fait, dans le régime taliban, il y en a 5 qui ont été libérées de Guantanamo par Obama. La responsabilité de Biden, c'est d'être aller au bout aussi, finalement, de ce qui avait été lancé par Trump.
Oui, je pense que Biden, en tout cas, aura pu négocier un peu mieux et remettre en question l'accord de Doha avec les talibans, mais surtout mieux orchestrer ce départ catastrophique, vous avez vu, de Kaboul avec les militaires qui partent avant les civils, y compris les civils américains. On ne fait jamais ça. On fait d'abord partir les civils, les ressortissants d'un pays donné, puis après, ses propres militaires. Donc, c'était mal négocié, mais je crois surtout, on avait envie que l'armée rentre, mais je dirais qu'au jeu d'échecs, c'était très mal joué. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'Afghanistan, c'est tombeau des empires. Il ne faut pas y rester trop longtemps ou soutenir l'armée locale, mais pas devenir une armée d'occupation. Puis deuxièmement, là, qu'est-ce qui s'est passé entre Trump et Biden ? C'est qu'on laisse les États de la région, ce que j'appelle les néo-empires, c'est-à-dire des anciens empires qui redeviennent des empires, la Chine, la Russie, l'Iran, redevenir les maîtres du jeu. Alors pour des raisons différentes, la Chine c'est les routes de la soie avec tout ce qu'on sait, le lithium, le gaz présent en Afghanistan, c'est un pays richissime, c'est 1000 milliards de dollars de réserves de matières premières et de métaux rares, et puis la Russie et l'Iran pour d'autres raisons. Mais vous vous rendez compte que l'Iran a maintenant une aire d'influence qui va de la Chine, avec le Waran qui est un bout d'Afghanistan en Chine, très montagneux, 5000 mètres d'altitude, à la Méditerranée avec l'attaquer l'espace d'influence qui est la Syrie et le Liban. Donc ils ont très bien joué. Les Américains, je dirais, ont mal joué sur la stratégie diplomatique.
Pour revenir à Ahmad Massoud, est-ce qu'il avait vraiment le choix de succéder à son père ? Il aurait pu rester à Londres ?
Oui, c'est une très bonne question. J'en parle avec mes amis, c'est presque sa destinée. Dans sa tête, c'est si je suis à Londres ou ailleurs, ou à Téhéran, ou à Douchanbe, au Tadjikistan en exil, je suis un traître, je suis un lâche. Si j'y vais, je pèse mes mots, je vais me faire tuer. Il est vraiment en danger de mort. Peut-être, on ne sait pas où il est sûrement caché dans le Panchir, mais peut-être dans un pays limitrophe, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais en tout cas, c'est une destinée incroyable. Et évidemment, Massoud, fils, n'a pas l'expérience de son père à 32 ans. Il vient de King's College de Londres, même s'il a fait, au-delà de ses 5 ans de relations internationales d'études, donc aussi un an de stage à la fameuse Sandhurst Military Academy, l'Académie militaire britannique. Mais en tout cas, il n'a pas l'expérience des maquis. Et puis deuxièmement, il y a eu beaucoup de trahison. Et surtout, pour finir, les talibans ont travaillé avec l'aide des Pakistanais. Toute la population en noyautant, en infiltrant en quelque sorte des mollahs, des mosquées, des villages, ce qui fait que le Panchir était cerné.
Est-ce à dire qu'un destin dramatique lui est déjà promis à Ahmad Massoud ?
Non, je pense qu'il va pouvoir être exfiltré et la résistance va continuer à l'extérieur d'une part. Et deuxièmement, je crois beaucoup à la résistance civile. des femmes qui vont se battre avec l'éducation et qui se soulèvent. Absolument, j'y crois beaucoup, c'est l'espoir de demain, il ne faut pas rester noir, au contraire, moi je suis dans l'optimisme et ces femmes sont incroyables. Je les ai vues sous les talibans, elles prennent les choses en main et j'espère qu'elles vont continuer.
Merci beaucoup Olivier Weber d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle votre livre passionnant, Massoud, le rebelle assassiné, c'est aux éditions de l'Aube. Merci à vous.